Nous sommes le 29 décembre et c'est la dernière émission sortée de cette année 2017. Pour cette dernière émission, prenons le parti de rire et de parler de romans graphiques avec Shadia Shaibi Loeslati. On pourrait vous souhaiter pour cette nouvelle année bien des choses, alors la santé, l'amour, l'argent, c'est des choses évidemment très intéressantes, mais ne jamais manquer d'humour, qui semble pourtant un souhait plus modeste. Et pourtant, le meilleur peut-être, puisque après tout, si tous les autres souhaits ne se réalisent pas, au moins, il vous restera toujours l'humour. Rien n'est plus drôle que le malheur, c'est la chose la plus comique du monde. C'est ce que dit Nell Hanag dans Fin de partie de Samuel Beckett. Plutôt que de s'attarder sur des faits d'actualité assez sordides, je vous propose un court voyage dans le temps avec les humoristes Pierre Dac et Francis Blanche. Nous voilà dans les années 50 et sur un fond de Boléro de Ravel, nous assistons à la naissance d'un nouveau parti. Et oui, rien de moins. Et ce parti, c'est le parti d'en rire.
Étant comme chacun le sait, le quoi ? Oui, bon. Le violon, voilà quoi ?
Rien.
Alors, quoi l'arrière, oui. Étant comme chacun le sait, le violon dingue, le violon dingue de tout Français qui se respecte, nous avons nous aussi, bien sûr, songé à former un nouveau parti.
Malheureusement, toutes les étiquettes étaient prises, ou peu s'en faut, car il y a énormément de partis politiques en France, des partis qui ne forment pas un tout obligatoirement d'ailleurs. Il ne restait qu'une appellation et nous avons sauté dessus à pieds joints car il nous paraissait convenir parfaitement au genre de parti politique que nous avions décidé de fonder, puisque nous l'avons appelé...
Le parti d'en rire. Mais il est bien évident, que tout parti qui se respecte, et c'est le cas du nôtre, doit comporter un programme, un compte chèque postal et une devise.
La devise, elle est très simple.
Pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour.
Quant au compte chèque postal, c'est Pi 3, 14, 116, 14, 18, 32.
2 fois 6.
2 fois 7, je retiens tout.
Oui, bon.
Et le programme ?
Oui, alors que le programme, pour qu'il soit plus facilement repris en cœur dans les écoles, les lycées, les marchés de banlieue et les garages, nous avons décidé de le présenter en musique.
Bien entendu, nous ne pouvions pas faire appel à n'importe quel compositeur. Merci. Aussi, nous avons demandé au regretté Maurice Ravel de nous écrire la musique de cet hymne du Parti d'en rire, que nous allons vous chanter maintenant, accompagné d'ailleurs par le général Jean Delbecco, qui se trouve à la tête de son piano. Et cet hymne sera sans doute célèbre un jour, musicalement parlant, sous le titre de Boléro de Ravel.
Oui, notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Sans parti pris, nous avons pris le parti.
De prendre la tête d'un parti, qui soit un peu comme un parti. Un parti placé au-dessus des partis.
C'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti
d'Henri.
C'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Qui se protéger la patrie de tous les autres partis. Et ceci, jusqu'à ce qu'une bonne partie soit partie et que l'autre partie de ces partis
ait compris
qu'il faut être
de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti,
dans ce sera un seul parti.
De tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Nous avons placé nos idéaux bien plus haut que les plus hauts des idéaux.
C'est le parti de tous ceux
qui n'ont pas pris le parti. Et nous ferons mieux, très bas Dieu, pour que ce qui ne va pas y
encore mieux. C'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
La franquité, la saineté, la bonne gaieté des familles.
Oui, notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti.
Nos buts sont déjà fixés. Réconcilier les œufs brouillés. Faire que le vaudor puisse se coucher. Apprendre aux chandelles à se moucher.
Aux lampes pigeons à roucouler.
Faire sauter les plombs à coups de trique.
Et les pommes de terre au plastique.
Exiger que tous les volcans soient ramenés une fois par an. simplifier les lignes d'autobus, en supprimant les terminus, et pour mauvais qu'on n'ait pas chiche, fermerait tous les hommes sandwich. Voilà quel est notre programme. Voilà le programme. 1, 2, 3, vendez le programme. 4, 5, 6, en prendre partout. 7, 18, 32, je le paye sans sous. 9, 43, bi, adhérez-y. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti. De tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, notre parti. Oui, non, si, bien. De tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Et voici.
Et voici.
Notre parti. Oui.
Et voilà, c'était Francis Blanche et Pierre Dac sur Radio Campus Tours. Et oui, on peut être une radio étudiante et écouter des choses un peu plus anciennes. Alors, sachez, pour briller à votre réveillon, que Pierre Dac s'est porté candidat à l'élection présidentielle en 1965 et pas à la tête de n'importe quoi. Quel parti ? À la tête du MOU, le mouvement ondulatoire unifié. Son slogan, les temps sont durs, vive le MOU. Mais sa candidature a été interrompue suite à un appel de l'Élysée qui le sommait d'arrêter cette plaisanterie. Avant de donner la parole à notre invité, car oui, nous avons une invitée aujourd'hui, Shadia Shaibi Louestati, auteure du roman graphique « Famille nombreuse ». Je ne résiste pas au plaisir de vous citer une des propositions du candidat Pierre Dac. Attention, je cite « Les élections législatives seront décalées de quelques jours afin de permettre aux députés sortants de trouver un nouvel emploi. » Voilà une proposition sur laquelle méditer tant que nous écoutons Francis Bébé Bissau. Et ensuite, vous entendrez notre fameuse interview téléphonique avec Shadia Shaibi Louestati. Bonne écoute sur Radio Campus Tours.
Bana wende be yidi Babi se ponde bana wende iboki Balangwe di ponde bana weben madiba Balangwe di ponde bana okwe di njalala Bisao Balangwe di ponde bana wende be yidi Babi se ponde bana wende iboki Balangwe di ponde bana weben madiba Babi se ponde mbana okwe di njalala Bisa o Otitinika Bisa o Usimana wa Bisa o Bana wende mwiditi Balangwe di nebana wende na misodi Babi se ponde mbana wende na bongo Babi se ponde mbana unalande songo Bisa o Babi se ponde mbana wende mwiditi Balangwe di nebana wende na misodi Babi se ponde mbana wende na bongo Babi se ponde mbana unalande songo Bisa o Otitinika Bisa o Usimana wa Thank you.
Shadia, on a déjà parlé de ton ouvrage « Famille nombreuse » dans une chronique, dans l'émission d'Alain Werner. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et donc, évidemment, c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir l'auteur pour parler de son travail plutôt que d'imaginer. Ce fameux livre, c'est, déjà on peut expliquer, c'est un roman graphique. Donc c'est pas tout à fait une BD, c'est pas tout à fait une autobiographie. Comment toi tu présenterais ce livre en fait? Comment tu présenterais ce livre? Tu dirais que c'est quoi?
C'est comme tu l'as dit, un roman graphique, quoi. C'est à cheval entre un roman et une BD. C'est aussi long qu'un roman et ça a on va dire un peu la façon, enfin la technicité de la BD. On sent entre les deux.
Mais il faut dire aussi que tu es dessinatrice. Enfin,
c'est ça. Dessinatrice jeunesse, en fait. Je suis illustratrice jeunesse à la base.
Comment on devient illustratrice jeunesse?
Je ne sais pas.
Par hasard.
Il n'y a pas de secret. Non, pas par hasard. Je dirais par passion, par amour du dessin, de l'histoire jeunesse. Enfin, c'est comme ça que moi, je suis devenue illustratrice jeunesse. En faisant des études dans ce sens, des études d'art, où j'aurais aimé, hein, mais c'est pas comme ça que je suis devenue illustratrice jeunesse.
C'est pour raconter quelque chose qu'on est illustrateur jeunesse?
Pas forcément, c'est aussi pour s'amuser, imaginer, c'est pour un tas de trucs.
Avant de se lancer dans ce roman graphique « Famille nombreuse », est-ce que tu écrivais aussi en parallèle? Est-ce que tu écrivais des bouts d'histoire dans des coins?
Alors oui, j'ai toujours écrit. En fait, j'ai même commencé par l'écriture. J'ai jamais fait lire, j'écrivais pour moi. Ouais, je me faisais plaisir et c'était bien, c'était pas bon, c'était pas grave. C'était pour moi. Et j'ai eu envie d'écrire vraiment pour faire lire. Donc j'ai voulu que ça soit différent. Pour que ce soit différent, j'ai choisi quelque chose qui m'est très très proche. Ma famille, c'est ce que je connais le mieux. C'est ce que je vis au quotidien. C'est ce qui fait que je suis aujourd'hui.
Alors c'est un côté peut-être un peu étonnant justement de dire je préfère que le public, enfin que les lecteurs potentiels découvrent quelque chose qui m'est très proche mais en même temps très personnel plutôt qu'une histoire plus inventée.
Bizarrement c'est plus difficile d'inventer une histoire finalement parce qu'il faut faire appel à son imagination, il faut que ça tienne la route, il faut que l'histoire elle intéresse et ça j'étais pas encore prête. Je préférais raconter ce que je connaissais le mieux et à ma façon pour commencer la première fois dans un roman graphique. Je trouvais que ça j'aimais bien le format le roman graphique, j'aimais bien l'objet. Pour pouvoir posséder, on va dire, cet objet, il fallait que je parle de moi. C'est ce qui me paraît le plus simple, en fait, parler de soi. Même si c'est difficile, paradoxalement, mais c'est plus simple que d'imaginer pour l'instant. Il est difficile quand on imagine de dissocier de ce qu'on est, parce qu'on met toujours une part de soi, même quand il y a de l'imagination. Et je me suis dit, non, quitte à donner de soi, autant donner tout, et voilà.
Alors peut-être que cette famille, elle est déjà suffisamment extraordinaire. Peut-être que c'est ça aussi, qu'il n'y a pas besoin de tant imaginer que ça.
C'est ça. En fait, ils m'ont mâché le travail.
Comment alors c'est venu ce talent de dessiner et d'écrire? Et comment est venu soudain, un jour, l'idée de lier les deux pour faire un roman graphique sur la famille, en fait? Comment c'est venu ensemble?
J'ai toujours voulu parler de ma famille. Parce que je trouvais ça quand même assez intéressant, ce qu'on vivait, le nombre qu'on était, comment on arrivait à évoluer, à vivre ensemble, à vivre avec les autres, et je trouvais ça sympa. Mais le raconter sous forme de roman, je trouvais ça ennuyeux. Et je peux pas dissocier ce que j'aime de ce que j'ai envie de faire. Et comme j'aime le dessin et que j'avais envie de faire ce livre, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse de cette manière, quoi, que je le dessine. On m'a demandé en cours de route, quand j'ai commencé à envoyer le projet Famille Nombreuse, on m'a demandé justement, un éditeur m'a demandé de le transformer en roman, de me dire voilà, on va laisser tomber l'idée du roman graphique et on va faire un roman. Et j'ai refusé, je me suis dit non, quoi. C'est pas comme ça que j'imagine.
Et puis alors, ce qui est intéressant, bah, enfin, il est magnifique ce roman graphique. En fait, il y a tellement de sujets d'émerveillement qu'on a du mal à savoir par où commencer. Alors déjà, le dessin, c'est un dessin qui... Est-ce qu'il est assez réaliste? Est-ce qu'il ressemble, en fait? Est-ce que vos personnages ressemblent réellement à vos frères et sœurs?
Alors, mes frères et sœurs, ils vont vous dire non. Non, non, ils vont vous dire absolument pas. Je suis pas comme ça, mon nez n'est pas aussi long. J'ai pas une mouette à la place des sourcils. J'ai eu tout. Moi, je trouve que au niveau du caractère, de la personnalité, ma façon de les avoir caricaturés, finalement, parce que c'est des caricatures, hein, je dirais, ouais, ils sont très ressemblants.
La mouette à la place des sourcils, c'est Sab?
Oui, c'est ça. D'ailleurs, je vais lui demander d'écouter l'émission. Il s'en plaint systématiquement, d'ailleurs. Ça et les cheveux frisés. Mais dis non, j'ai les cheveux raides. On va le laisser croire. Même les gens finissent par les reconnaître. Même les gens qui les connaissent se disent « Ah ben oui, effectivement, j'arrive bien à reconnaître le personnage parce que c'est vraiment un tout que j'ai mis autour. » Au-delà du fait de les avoir dessinés, il y a aussi la personnalité qui les suit. Ils sont en accord avec eux-mêmes, quoi. Je leur ferais pas dire quelque chose qui serait pas en mouvement, qui dirait pas habituellement, ou je leur ferais pas faire une action qu'ils ne feraient pas habituellement. Donc c'est vraiment le personnage. Moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup.
Et puis, il y a aussi les voix, hein, parce que donc il y a les enfants, une famille de 13. Et puis, oui. Voilà, il y a les parents aussi, Omi, et puis le daron. Et alors,
oui.
Ce qui est très touchant et très intéressant aussi, c'est que, en fait, comme vous le dites, vous essayez absolument pas de faire dire à vos personnages des choses qu'ils ne diraient pas a priori en vrai. Et donc, c'est vrai qu'on retrouve chaque personnage à... sa façon de s'exprimer particulière, hein, et le daron, donc le papa, il parle voilà une langue entre le tunisien et le français, et c'est extrêmement touchant. Donc,
C'est ça, mais de toute façon, je n'imaginais pas autrement quand j'ai commencé à écrire les bulles et quand chaque personnage a commencé à parler dans le livre, notamment, enfin, ça commence par mon père, hein, je me suis dit, je ne peux pas le faire parler correctement le français. Pas possible, mon père avait un accent et c'est toujours comme ça que j'ai entendu parler, donc je me suis dit que si j'écrivais correctement les phrases, je travestirais la vérité, je changerais des choses et ça serait pas le daron. Non, ça me paraissait tout à fait naturel de le faire parler comme ça.
Et puis alors quand même, il y a ce roman graphique qui couvre une période assez longue. Hein, on voit le...
Oui, 20 ans.
20 ans d'une vie de famille. Oui. Là où au départ, c'est une part de Tunisie pour venir en France. Et du coup, pour reconstituer ces 20 ans d'histoire, j'imagine que vous avez mis à contribution vos frères et sœurs.
Oui, j'ai fait appel à la mémoire collective. C'est ça, en fait, j'ai demandé à tout le monde de regrouper des photos, de me regrouper des anecdotes. J'ai demandé des vérifications de dates, on a fait vérifier les dates. Il m'a fallu que je recherche dans les documents de mes parents. Alors, il faut savoir que mes parents sont décédés. Donc, j'ai pas pu demander à mes parents. Donc, j'ai vraiment demandé à mes frères et sœurs de là-dessus d'être très vigilants pour pas qu'il y ait d'erreurs. Même si j'ai dû peut-être en faire une ou deux au passage, mais... C'est tout un travail de recherche, d'expression aussi que, par exemple, que mon daron avait. Et c'était bien, quoi. C'était sympa parce que ça a pris énormément de temps. Enfin, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris pratiquement 18 mois. J'ai trouvé ça sympa parce que ça a donné un coup de boost aussi à la famille. Et puis, c'est quelque chose qu'on a fait en commun, quoi.
Il y a une page où on voit le déco daron. Alors...
Oui.
Une machine pour décrypter le daron. J'ai un petit dessin en fait pour où on voit votre père qui est sur une machine de votre invention là pour le
c'est
traduire
ça.
En fait. Et à côté on
c'est
a une petite liste de mots traduits. C'est pas joie. Ah tu choisis. Tu choisis.
Pour nous c'était évident, mais j'essaie d'imaginer souvent comment réagissaient les gens quand mon père parlait. Est-ce que les gens arrivaient à comprendre? Est-ce que les gens assimilaient les choses, et je me suis dit, en fait, il n'y a pas que mon père, en fait, dans cette situation. Il y a tous les parents qui sont immigrés d'un pays autre que la Tunisie et qui ont aussi leur accent. Et donc, c'est une machine un peu où moi j'ai posé le daron, mais on peut mettre n'importe quel daron, hein, si on est d'accord.
Oui.
et qui permettra justement de traduire, de. Voilà, donc c'est une machine que j'ai inventée pour faciliter, on va dire. La vie du daron.
Voilà, et alors en
donc
plus...
à bon entendeur, s'il y a des ingénieurs qui écoutent la radio, qui veulent créer cette machine, ça serait une très très bonne invention.
Alors sachez que cette machine, elle a besoin d'un entonnoir à parole, hein, et puis de, d'un réservoir aussi où on met des carburants. Donc en l'occurrence, hein, dans le cas du daron, les carburants, c'est du couscous et de la harissa. Mais évidemment, ça. Ça peut être tout autre produit.
Tout à fait. Tout à fait. Même mafé, allez-y, saucisson, il n'y a pas de problème.
Ce qu'on remarque aussi, c'est que dans vos dessins, alors c'est toute une histoire qui est en noir et blanc et jaune. Donc il y a une couleur dans ce roman. Et alors pourquoi vous avez choisi le jaune?
À chaque fois que j'entends cette question, on me la pose systématiquement. Et je remercie le ciel. Le jour où j'ai commencé à faire le roman graphique et je me suis dit je vais rajouter une couleur, je remercie le ciel d'avoir réfléchi et de pas avoir choisi une couleur au hasard. Donc j'ai choisi le jaune parce que c'était la tenue que mon père mettait pour aller travailler. Elle devait correspondre en fait au ticket de l'époque, au ticket de métro, parce que mon père travaillait dans le métro parisien, il était balayeur. Et donc il avait cette tenue où il était en jaune. C'est pour ça que j'ai choisi cette couleur.
Voilà, et donc du coup il y a des détails jaunes qui apparaissent au fil des pages. Hein. C'est les vêtements.
J'essaie de mettre l'accent sur des petites choses, oui.
Des objets, des vêtements.
Et il y a aussi à l'intérieur du roman graphique les pages jaunes à la fin de chaque chapitre. En fait, c'est des pages où quand j'ai commencé au début à un peu parler du roman graphique à mes frères et sœurs, à leur montrer, etc. Et ils intervenaient, ils me disaient « Oh non, mais tu devrais pas parler de ci, oh non, tu devrais pas dire ça, etc. » Et j'ai trouvé ça tellement amusant que j'aurais dit qu'à chaque remarque, je la mettrais dans le roman graphique et je la ferais ressortir avec une page jaune.
C'était quoi les choses qui, a priori, étaient interdites, qu'ils n'avaient pas droit de citer dans cette épopée familiale? Qu'est-ce qui était interdit? Qu'est-ce que vos frères et sœurs ne voulaient pas?
Non, pas forcément interdit, mais par exemple la Gloria. J'ai un des frères qui m'a dit « Oui, quand même, tu t'adresses, tu t'attaques au plan national. » Alors ça m'a fait rire. Et je me suis dit, il faut que je le mette dans le bouquin.
C'est vrai qu'il y a cette histoire de plat national à un moment. Alors, en plus, la Moria, elle est dessinée comme un monstre.
C'est comme ça que je la voyais quand j'étais petite.
Une espèce de créature là, qui sort de la casserole. Hein. Vous pouvez peut-être rappeler ce que c'est, parce qu'il y a des auditeurs qui ne doivent pas connaître.
Non, mais je vous invite à aller faire une recherche où vous voulez, dans des livres, non plus sur Internet, je pense. vous tapez Moria. Et vous verrez à quoi ressemble ce plat. Mais c'est très bon, hein. Sauf que bon, quand j'étais petite et qu'on me demandait de manger ça, c'est comme si on demande à un enfant aujourd'hui de manger des choux de Bruxelles, il va vous dire « Ah non, c'est pas bon ».
C'était un ragoût de couleur noire au goût sableux. Et alors, surprise, parce que la Moria, voilà, il y a toujours une masse jaune qui s'accumulait sur le bord de l'assiette.
L'huile.
C'était l'huile. Donc là aussi, on retrouve le jaune.
C'est ça, l'huile de jaune. Puis il y en avait sur les dents aussi un petit peu, c'est marrant. Donc quand vous mangez la Moria, il ne faut pas sourire après.
Ah, bon, alors avis à ceux qui auraient envie de goûter le plat national tunisien. Et puis aussi quand même, c'est un livre bon, qui est extrêmement drôle, hein. On rit d'un bout à l'autre. On pourrait se dire, oh là là, c'est une histoire d'une famille nombreuse, voilà, d'origine tunisienne, assez compliquée, ça va pas être rigolo et tout ça. C'est extrêmement drôle et pourtant on se doute bien que ça a pas dû être si amusant que ça tous les jours. Et pourtant...
Tout ce qui est dit dans le bouquin, effectivement, c'est dit de manière assez drôle. J'essaie de prendre du recul sur la situation, mais c'est des situations qui ne le sont pas forcément, mais que je tourne justement à la dérision, parce que avec du recul, on se dit finalement, on est bien sorti, on est bien, et puis tout ça, c'est des leçons de vie. Et je me suis dit, voilà, je vais raconter notre histoire de la même façon que notre famille, drôle.
Est-ce que l'humour sauve, en fait? Est-ce que c'est ça qui rend les choses plus légères, plus...
Alors, je sais pas si ça sauve, mais ça détend. Parce que j'ai bien compris que ça servait à rien, effectivement, de s'énerver ou d'essayer de sacher, d'être entraîné, etc. Ce qui est pas facile, c'est encore plus difficile d'être drôle, je dirais, que de se fâcher. Ou de, de prendre des choses de manière un peu agressive, etc. Enfin, voilà, moi, je trouve qu'avec l'humour, on peut tout dire. Enfin, on peut tout dire, tout peut passer plus facilement. C'est tellement plus agréable, quoi.
Mais oui,
on en a besoin.
Enfin, vous allez le voir quand même dans l'humour, hein, parce qu'il y a des blagues qui sont quand même assez osées. Je suis sûre qu'il y a plein de gens là qui, un peu hypocritement, n'oseraient jamais faire ce genre de blagues. Voilà, donc là, au hasard, j'ouvre le livre et je vois par exemple, puisqu'on en était à la Moria, question pour un marmiton, top, je suis un ragoût tunisien à base de corêtre séché et mijoté pendant plusieurs heures, ce qui lui donne un aspect épais de couleur noire. Je suis, donc là, on a Julien Lepers, c'est l'autre personnage, c'est un personnage africain et qui répond la main noire. Et donc
la
ça, voilà. Et donc ça, c'est vrai que c'est un peu le running gag. Voilà, on y a droit à tous les bêtisiers tous les ans. On voit cette cette petite vidéo et c'est vrai que dans le climat actuel, un peu crispé, un peu hypocrite, quoi. Personne n'oserait faire ce genre de blague. Donc donc merci.
Et pourquoi?
Et bah oui, pourquoi? C'est une bonne question.
Pourquoi? Là, après, moi, je l'ai fait sur un ton où pour moi, la Moria, ça représentait vraiment cette marée noire qu'on voit des fois avec des pélicans empêtrés. Et j'ai tout de suite pensé à ce running gag et je me suis dit, je vais le faire, mais sans penser, on va me taxer de raciste ou on va dire, oh, c'est pas très bien de dire ça, c'est pas politiquement correct. C'est pas le but de mon livre. Si on cherche du politiquement correct, si on cherche quelque chose où, je sais pas, c'est vraiment pas le but de Famille Nombreuse. C'était de raconter cette histoire, de dire aux gens, voilà, on était 11, 11 enfants, on habitait à F5, et voilà comment était la vie, sans forcément faux semblant, en disant les choses telles quelles, j'ai vraiment tout raconté comme je le voyais avec mes yeux d'enfant de l'époque. Où je voyais pas le mal, je voyais pas le racisme forcément, je voyais des gens qui étaient méchants, des gens qui étaient cons des fois, des gens qui étaient vachement sympas. J'en ai connu beaucoup plus d'ailleurs, heureusement. Et c'est comme ça que je l'ai raconté. Et c'est comme ça que j'espère que les gens vont le percevoir.
Pourtant, le racisme, il y est en toile de fond. Hein. On trouve en filigrane dans ce roman graphique. Par exemple, il y a des scènes... là, un peu acide, hein. Enfin, l'acidité n'est pas de votre côté, mais quand on voit par exemple des maîtresses, bon, ils vous prient d'aller vous asseoir au fond de la classe ou des choses comme ça, et du coup, les choses ne sont pas dites frontalement, mais bon, on comprend bien, on imagine bien pourquoi, en tout cas, pourquoi il y a d'autres enfants qui ne veulent pas jouer avec vous, voilà, enfin, malheureusement, ça arrive encore, ce genre de choses.
Oui, mais en même temps, ce que je dis aussi, c'est que c'est pas grave, quoi. Pas la fin du monde. C'est vrai qu'il y a des gens comme ça, on rencontre des gens comme ça, mais ce qui fait la force d'une personne, c'est que c'est de passer au-delà de tout ça, au-dessus de tout ça, et de se dire que tout le monde n'est pas comme ça. Et si on regarde bien, il y a aussi beaucoup de gens bienveillants, et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Et heureusement que moi, j'avais ma famille qui était bienveillante, j'avais mes frères et sœurs, j'avais aussi des amis, j'avais Émilie, qui a survécu à la Moria.
Tout à fait, voilà.
Donc voilà, donc après des imbéciles, on en rencontre partout, quoi. Après, quand on grandit, on voit les choses différemment. Et c'est ce que. Et j'espère que les enfants qui vont lire si jamais des familles nombreuses et ils se posent des questions par rapport à ça, qui se disent que ça, c'est pas toute la vie que ça dure, hein, des gens comme ça, qui sont pas gentils, qui sont méchants, ça passe et il y en aura toujours. Et après, je dirais ce qu'il faut, c'est passer outre. Même si effectivement c'est difficile et qu'il faut quand même en parler, parce que c'est important, c'est pas le point central. Ce qu'il faut, c'est de ne pas tirer une aigreur de tout ça, ne pas être aigri de tout ça. Il faut servir comme une espèce de force, quoi.
Oui, mais c'est ça qu'on lit hein, dans ce beau livre. C'est ça, c'est qu'il y a d'autres solutions que la colère, l'aigreur et tout ça. Et donc oui, j'espère que ce livre gagnera beaucoup de bibliothèques où il y a des jeunes qui viennent, parce que ça me semble important de le lire. Et on peut aussi dire que vous avez eu un prix par la Société des gens de lettres.
Oui, le prix du Breuil, le prix du premier roman.
Voilà.
Donc, je suis très contente et je les remercie.
Voilà, bah oui, parce que quand même, est-ce que vous attendiez à avoir ce prix?
Non, on ne s'attend jamais à avoir un prix. Quand j'ai fait Famille Nombreuse, je m'attendais à surtout un jour dire à mes enfants, voilà, Je vous confie ce livre, c'est mon héritage, c'est ce que j'aurais à vous dire sur mon histoire, c'est ce que j'aurais à vous dire sur ma famille, et c'est ce que j'aimerais dire à tous les enfants, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme un message que j'aimerais passer. Et mais on s'attend jamais à ce que quelqu'un vous dise finalement il a été lu là où je m'attendais pas forcément à ce qu'il soit lu, et qu'on me dise voilà, il tenait un prix, c'est la cerise sur le gâteau, c'est génial. Un gâteau rime pour moi que j'ai pas à partager.
Parce qu'il y a aussi une histoire de gâteau, la forêt noire.
La forêt noire, hashtag rouge.
Voilà, donc du coup, on n'en dira pas plus, parce qu'il faut quand même que les lecteurs aillent lire ce livre, vraiment, je ne peux que le recommander. Donc on le retrouvera bien sûr dans toutes les bonnes librairies, mais aussi sur certains sites internet marchands, que nous ne citerons pas. Et
Dans certaines librairies, surtout dans les librairies. Il y en a plus dans les librairies. que dans les sites marchands, il y a une rupture de stock, j'ai entendu dire.
Voilà, donc
faut aller dans les librairies.
Surtout qu'à Tours, on a quand même une bonne librairie, entre autres, on a beaucoup de bonnes librairies, mais il y en a une qui est spécialisée en bande dessinée, donc ce serait quand même dommage de ne pas y aller. Et puis, est-ce que vous avez, on le souhaite, un autre projet en cours, peut-être pas un roman graphique, mais qu'est-ce qu'on peut lire d'autres ou regarder d'autres comme travaux?
Alors, comme travaux.
Comme travaux, bah oui, c'est du travail.
Là, j'ai travaillé récemment avec l'édition Larousse, où j'ai illustré, entre autres, avec d'autres illustratrices, une encyclopédie sur le corps humain, pour les tout-petits. Et j'ai travaillé également en collaboration avec l'édition Playback, où j'ai eu la chance de pouvoir illustrer les éventails, les incollables, les fameux incollables, qu'on a tous eu quand on était jeunes. Voilà, donc j'ai illustré la section, la grande section et le niveau CM1. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de livre qui va sortir de moi. Je prépare actuellement le tome 2. De familles nombreuses.
Bah voilà. Oui, puisqu'il y avait quelques réclamations à la fin. Il y a quelqu'un qui est très mécontent de ne pas apparaître dans le livre.
Oui, tout à fait. Et puis bon, je voulais finir mon histoire. Et là, donc, j'ai fini le storyboard, donc je commence à dessiner le livre.
Voilà, donc il faudra patienter un petit peu. Est-ce que par hasard, on peut rêver d'une adaptation à l'écran de familles nombreuses?
Je ne sais pas s'il y aura assez d'acteurs qui soient frères et sœurs. C'est pas sûr. Je ne sais pas du tout. Il faudrait peut-être qu'ils soient lus ou je ne sais pas. Mais pourquoi pas, on peut toujours rêver. Hein. C'est beau de rêver.
Bah, oui, tout à fait. Mais dans l'idée, est-ce que c'est quelque chose qui vous amuserait et vos frères et sœurs aussi, est-ce que ça vous amuserait de voir familles nombreuses portées à l'écran? Ou est-ce que ce serait vraiment bizarre?
Ça pourrait être amusant.
Bon, là aussi, il y a un bon entendeur. Voilà, après avoir adressé des messages subliminaux aux libraires, adressons-en aux gens qui fabriquent des
films. Exactement.
Voilà.
Exactement. Et aux gens qui fabriquent des vélos également. Mélissa aurait besoin d'un vélo si quelqu'un pourrait lui en prêter un pendant quelques temps, s'il vous plaît. Je vous remercie. C'est extrêmement généreux.
Bon, voilà. Donc, du coup, je n'ai même pas besoin de réclamer moi-même. On le fait à ma place.
Super.
Et je te dis, est-ce que vous avez un blog ou est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ou quelque part, si on a très envie
sur Instagram.
Sur Instagram, d'accord.
Shadia Lohkati. Et vous pouvez voir mon travail.
Bon, alors nous irons dans ce coin-là.
Oui, avec grand plaisir.
Eh bien, merci beaucoup. Donc, je rappelle.
Merci à toi.
Je rappelle, Famille Nombreuse, Shadia Chaibi, Loueslati, aux éditions Marabout, collection Marabulle. C'est un roman graphique en noir et blanc et jaune et qu'il faut absolument lire avant ses 40 ans.
Voilà. Exactement. Et si comme un petit garçon qui m'avait dit un jour en dédicace, j'aimerais bien avoir votre livre, mais il est trop cher, allez dans les médiathèques. Vous pouvez également l'emprunter. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Merci Shadia et au passage,
je vous en prie.
Une très bonne année à toute votre famille.
À vous aussi, bonne année tout le monde!